Bonjour à tous, Marc Julliet, coach professionnel en entreprise et coach de vie. Je suis ravi de vous accueillir à nouveau pour un épisode de Coach Station. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir comme invité Anne-Sophie Barraud, qui est coach professionnelle, superviseuse et mentor. Elle nous fait part de son parcours et de son expérience et vous allez voir, elle entretient un lien tout particulier avec le milieu aquatique. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bonjour Anne-Sophie, comment ça va aujourd'hui?
Bonjour Marc, écoute, tout va bien, ravi d'être là.
Pas trop chaud?
Ça va, un peu chaud à côté de Marseille, dans notre belle région, mais ça va.
Alors justement, merci de faire cette intro. Justement, toi tu viens de Toulouse, ça fait pas très longtemps que tu es sur la Ciotat.
Oui, absolument, toulousaine d'origine, doublement expatriée, on aura peut-être l'occasion d'en parler après. Et presque une troisième expatriation, rien qu'un changement de vie récent, hein, depuis l'année dernière. Je suis partie de la volonté de vivre proche de la mer, voilà, à La Ciotat, donc à côté de Marseille.
Ok, alors on fera le lien un petit peu plus tard avec une activité que tu es en train de développer.
Oui.
Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu ce qui t'a amené au coaching, comment tu es arrivé à ce métier, un petit peu ce que tu as fait avant?
Bien sûr, avec plaisir. Bah, écoute, moi j'ai un parcours qui a été marqué depuis l'enfance, hein, par la passion humaine, par la volonté de prendre soin d'autrui. Aussi parce que j'ai un parcours qui a été marqué par la perte et par le deuil, hein. J'ai perdu ma mère à 13 ans et mon père quelques années plus tard. Et donc de ce fait, j'ai été traversée par un certain nombre de questions métaphysiques, par un certain nombre de processus internes aussi, à titre personnel, qui ont fait que j'ai toujours été passionnée, tournée vers cette recherche intérieure, cette recherche de vérité, si tant est qu'elle soit possible. Et donc, ce chemin-là a commencé très tôt. Commencé à lire des livres de développement personnel. J'avais 15 ans. Et puis, le coaching en tant que tel, il est parti aussi d'une transition de vie, hein, d'une nouvelle étape, d'une nouvelle épreuve où j'étais expatriée en Angleterre et où je me suis séparée de manière un peu soudaine du papa de mon fils. Et du coup, j'ai été coachée à l'époque, il y a 10 ans, ça se faisait peu, même par Skype, par une superbe coach qui se reconnaîtra, qui m'a beaucoup aidée, hein, dans cette transition personnelle et professionnelle. Un point, hein, sur mes compétences, de là où j'en étais, il est devenu évident que mon chemin était d'aller creuser vers l'accompagnement de l'humain.
Donc en fait, le fait d'être coaché, ça t'a donné envie de devenir coach?
Alors, le fait d'être coaché, je ne sais pas si ça m'a donné envie d'être coach au débarrage, mais en tout cas, ça m'a permis de ressentir et de vivre la puissance que cela permet. Et en ça, dans mon parcours de coach professionnel derrière, c'était une grande force, en fait, parce que je l'avais vécu de l'intérieur et j'en étais absolument convaincue.
Ça part de quelque chose d'une épreuve finalement, et ça se traduit après par quelque chose de bah, plutôt, j'allais dire, heureux. Tu t'épanouis pleinement dans ton métier de coach. On en a parlé un petit peu en off. Tu accompagnes aussi des coachs, hein, tu nous diras comment. Ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir ta vision aujourd'hui du coaching, puisque tu m'avais dit, moi, j'ai pour habitude d'accompagner sans outils, à main nue, accrue, pour reprendre aussi ton expression. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus de ça?
Oui, bien sûr. Pour reprendre le terme que t'as pas utilisé, mais qui était sous-tendu, c'est la résilience. Hein. Je suis une grande résiliente de l'extrême à différents niveaux dans ma vie. Hein. Et donc, oui, j'ai toujours fait de chaque étape, de chaque épreuve, un apprentissage, en tout cas, une nouvelle étape de, j'ai envie de faire ce geste, mais de rayonnement, voilà, quelles que soient les ressources que ça demande. Et du coup, oui, alors j'ai été coach essentiellement dans des grandes entreprises, dans des grands comptes. En fait, j'étais convaincue de ne pas aller vers du coaching exécutif. Et puis finalement, la vie a fait que j'en ai fait beaucoup. J'ai fait que ça, quasiment. Et avec beaucoup de plaisir. jusqu'à ce que je devienne aussi membre de l'équipe pédagogique d'une école nationale hein, de coaching pour laquelle je suis mentor et superviseur. Et donc, voilà, d'accompagner
Tu
des
peux la
coachs.
nommer, hein, tu peux la nommer.
Oui, bien sûr, Coaching Ways,
Ouais.
voilà, qui m'a beaucoup appris sur le chemin.
Et du coup, ton type de coaching, tu disais, c'était plutôt orienté vers les dirigeants, c'est ça?
Alors, j'ai fait vraiment tout un tas d'accompagnements, hein, de coaching, de formation aussi, hein, puisque j'ai été formatrice à la CEPAM, hein, sur donc beaucoup d'heures de pratiquer, de formation, utiliser le principe du coaching pour permettre, alors c'est un peu spécifique, à l'assuré de remobiliser ses ressources pour se soigner. Hein, donc voilà, vous avez compris, ma vie a été marquée par le deuil et aussi par la maladie. Du coup, la vie a fait que j'ai été amenée à travailler dans ce genre de domaine. Mais j'ai aussi enseigné dans des écoles post-bac, permettre des étudiants de travailler sur leurs projets, sur eux, sur qu'est-ce que c'est collaborer, c'est quoi le collaborateur du futur, sur des ateliers de confiance en soi. C'est un public qui m'a beaucoup, beaucoup plu, beaucoup appris aussi. On sous-estime énormément ce que les jeunes ont à nous transmettre. Ben, non pas que je sois vieille, mais voilà, face à des jeunes de 20 ans, on les regarde avec. Voilà, ben moi j'ai beaucoup d'admiration pour tous ces jeunes que j'ai eus avec moi dans les ateliers. Et du coup, oui, pas mal de coaching de dirigeants, de comité de direction, d'accompagnement 360 aussi. C'est un exercice qui m'a beaucoup plu. Hein, 360, c'est se poser la question du rapport que l'on a aux autres à tout niveau, avec ses pairs, avec ses N+1, avec ses N-1. Avec des partenaires qui m'ont fait une grande confiance, avec qui j'ai pu tester pas mal de choses. Et puis, progressivement, j'ai été amenée à voilà, faire du mentoring, hein, et ça a été de plus en plus une part d'activité importante. Et donc, un public différent aussi, hein, un public de coach en cours de certification,
Ouais.
lors de sessions jurées à l'ANCP, par exemple, ou de pré-certification ICF. Voilà, donc c'est un rôle, hein, le mentoring qui va permettre au coach eh bien, de faire le point sur. Là où il en est de ses compétences, de sa pratique, donc par différents moyens, notamment l'écoute, hein, l'enregistrement ou de la supervision collective en live, hein, où on va écouter le coaching qui vient de se faire pour donner un feedback concret, précis et factuel. Puis de l'autre côté, il y a la supervision qui est plus large, hein, qui va permettre au coach de grandir dans sa posture, mais aussi sur son identité professionnelle. Des questions de savoir, de savoir-être, de savoir-faire. C'est un grand plaisir que de permettre à des accompagnants ou des futurs accompagnants de développer leur puissance et de leur transmettre. Hein. J'aime bien cette phrase de Jaurès qui dit « On ne transmet pas ce que l'on sait ou ce que l'on croit savoir, mais ce que l'on est. » Donc voilà, ça donne sens aussi à un certain nombre de choses.
Alors justement, je te remercie d'avoir ouvert ce volet sur le mentorat. Et je te l'avais dit, c'est un peu un profil qui m'intéresse chez toi, c'est justement cette compréhension. Aujourd'hui, on voit que de plus en plus, alors j'aime beaucoup, je fais aussi la transition avec la formation, parce que je vois de plus en plus de coachs qui proposent aussi de la formation, et je trouve ça intéressant, justement, en termes de posture, d'accompagner tu parlais des jeunes, moi j'accompagne aussi des alternants qui sont en master, et je leur dis souvent, vous n'êtes pas là par hasard, donc ayez confiance en vous. Moi, je suis fier de vous et je les encourage tout le temps. Je crois vraiment que les jeunes aujourd'hui, ils ont beaucoup de choses à offrir, partager, comme tu disais. Mais j'aimais bien aussi l'idée que tu puisses mettre ta casquette de mentor et que tu puisses justement expliquer en quoi le mentorat, c'est quoi le mentorat, parce que je pense qu'il y a il y a une lecture aujourd'hui du mentorat qui peut se faire sous différents angles. Il y a des gens, notamment, qui sont des entrepreneurs, qui accompagnent d'autres entrepreneurs qui sont en début de parcours sur un chemin qu'eux ont déjà accompli, quelque part. Donc, c'est une posture où on n'est pas au-dessus, mais bon, on est quand même... on est sur une autre posture, en tout cas, que le coaching. On vient accompagner, on vient partager un retour d'expérience. Dans ce que tu proposes avec tes futurs coachs, c'est aussi de leur faire des retours avant qu'ils se lancent complètement dans l'aventure de coach, pour qu'ils sachent un petit peu sur quoi ils peuvent travailler. Parce que j'entends ce que tu dis, c'est
C'est bon, bah, y a des moments, je fais des retours par rapport à ça. Et tout de suite après, tu es passé en mode supervision. On fera la parenthèse aussi si tu veux. Mais est-ce que tu peux nous donner un peu plus de lumière sur ta posture de mentor?
Oui, alors ma posture de mentor enfin, dans le cadre ICF, hein, puisque je suis voilà, affiliée à la Fédération internationale de coaching et avec beaucoup de joie aussi pour professionnaliser notre métier. L'idée est donc de permettre à des coachs en cours de certification de se former, de prendre des bons réflexes professionnels à un moment clé de leur parcours, c'est-à-dire avant d'aller s'entraîner à coacher à l'extérieur, et donc de s'assurer qu'ils ont intégré la base des compétences, hein, mais une compétence ICF, et aussi la base de la posture. Et donc, de ce fait, la posture de mentor à cet endroit-là, hein, ce qui est quand même différent de ma supervision, c'est important de le mentionner, ça va être de permettre l'intégration d'un cadre, hein, vraiment l'intégration d'un cadre, l'intégration d'un processus d'éthique, de déontologie aussi dans leur parcours.
Il y a, j'allais dire, une posture d'accompagnant, c'est ça, hein, mais en même temps, le but, c'est qu'ils aient toujours du feedback.
Oui, absolument. Ils arrivent à se positionner hein, par rapport à leur progression. Hein. C'est un métier, même une vocation dans laquelle il est important d'avoir du feedback régulier. Hein. Dès lors qu'on considère que le coach est utile au coaché, eh bien on considère que le mentor est utile au mentoré et de la même manière qu'on le supervise. Et donc, c'est vraiment essentiel, surtout à des moments clés où on va avoir besoin de confiance, en fait, hein, de
D'accord.
grandir et de légitimité aussi pour se lancer.
Ok. Bon, je te remercie. Donc la supervision, on peut le préciser, ça peut être dans le cadre de la formation. La plupart du temps, dans les centres de formation, on est supervisé aussi. Donc la supervision, c'est un espace. Tu vas nous expliquer un peu comment tu vois les choses. Mais c'est aussi une obligation. Tu parlais d'ICF, mais il y a d'autres fédérations comme la MCC qui effectivement demandent à ce que l'ensemble des coachs sont adhérents, se fassent superviser.
Oui, absolument. Alors, il y a différentes typologies de supervision. Il y a la supervision individuelle, la supervision collective. Hein. Donc, sur la partie supervision individuelle, on va accompagner le coach justement beaucoup plus loin dans sa pratique hein, sur des sujets bien spécifiques. Hein, où, ça peut être l'impact de ses drivers dans sa pratique. Ça peut être des difficultés à dépasser. Des schémas réactionnels liés à des émotions qui limitent le coach. Et ça peut être également lui permettre au coach de densifier son identité professionnelle, d'aller vraiment plus loin hein, dans sa pratique et dans sa volonté d'accompagner l'humain, que ce soit à titre individuel ou dans les organisations.
Ok, alors justement, je fais aussi le lien avec la formation. Souvent, les retours que j'ai des coachs qui se font superviser, ils me disent en même temps, on a toujours l'impression qu'on apprend à chaque séance de supervision parce que finalement, il y a, alors on parlait de superviser en collectif, bah, c'est vrai qu'il y a des cas qui se présentent tout au long de la. Alors généralement, c'est des demi-journées, c'est ça, ou des journées, ça dépend un peu des superviseurs, comment c'est organisé. Et ils me disent souvent, bah, en fait, on a appris plein de trucs parce qu'on a partagé. Des cas et du coup bah ça nous a permis aussi de mieux comprendre certaines choses et je me dis en fait les coachs c'est des éternels apprenants quoi en fait
Oui, absolument, hein, je partage cette vision. C'est-à-dire que, bah, en effet, dans un groupe de coachs, déjà, il y a quand même un niveau de conscience, de maturité qui a la volonté de toujours grandir. Et à la fois, comme on échangeait tout à l'heure, hein, il y a de mon côté cette envie, cette volonté de permettre au coach aussi d'être dans une forme d'acceptation intérieure de pleinement qui ils sont, sans être toujours dans le plus, hein, dans vouloir être plus. Hein, ouais. D'ailleurs, là, j'ai échangé avec Max Mellemans il n'y a pas si longtemps, hein, qui est le fondateur de l'école Coaching Ways, sur la différence entre le développement personnel, c'est-à-dire à chercher toujours à se développer, versus le déploiement, c'est-à-dire aller progressivement vers l'essence hein, de qui l'on est et voilà, s'alléger de ce qui n'est plus nécessaire.
C'est important que tu le soulignes, hein. Je te l'avais dit effectivement quand on avait échangé en off, c'est que souvent, honnêtement, je crois que les coachs, c'est pour moi les personnes qui se forment le plus ils sont toujours en train de rechercher une formation qui va bien, un outil. Et c'est intéressant ce que tu dis, c'est justement de prendre le processus un peu inverse, à un moment de se dire, bah, tel que je suis aujourd'hui, je peux accompagner, je peux donner un maximum de force, de sécurité, hein, puisque c'est un métier, on assure aussi une sécurité, une confidentialité, en étant moi-même, en acceptant aujourd'hui que ce que j'ai, ça peut, j'allais dire, ça peut suffire. C'est
Absolument. Hein,
important ce que tu dis, ouais.
on a un rôle modélisant aussi hein, pour nos clients et puis pour nos coachs hein, en tant que superviseur. Et donc l'idée, c'est d'être attentif à cette quête hein, de la pureté, de la perfection qui n'existe pas. On n'est jamais arrivé sur le chemin. Bien sûr, c'est intéressant d'accumuler un certain nombre d'outils. Comme je le disais, moi, je prône hein, ce qu'on appelle le coaching sans outils, hein, que certains nommeraient le coaching à main nue. Moi, j'aime bien aussi, pour ceux qui font l'équitation, dire de monter à cru, c'est-à-dire voilà, d'être dans une forme d'essentiel. Et pour moi, l'essentiel est une des compétences majeures du coach, c'est la qualité de présence. Hein. C'est une qualité d'être, une qualité de connexion au moment présent, à soi, à l'autre, à la relation et au processus. Donc, c'est une gymnastique. Et c'est une forme de sécurité du cœur aussi qui, à chaque instant, va pouvoir accueillir ce qui émerge. Voilà.
Du cœur, du ventre, ok. Il y avait des mots-clés que j'avais notés, je t'avais dit cœur, présence, écoute. Tout c'est vraiment, je trouve, ce qui te traduit bien. Je sais que le fait de venir à La Ciotat, c'est par hasard. Tu m'avais fait part d'un projet que moi, je t'avais demandé si tu étais d'accord pour qu'on en parle aujourd'hui. Est-ce que tu veux nous dire comment tu es arrivé à cette pratique et comment tu as fait le lien finalement avec ton métier?
Tu fais référence à l'apnée.
C'est ça.
Oui, en effet. Alors, c'est vrai que ça a été un très gros changement dans ma vie de prendre la décision de changer de vie. J'avais atteint la fin d'un cycle matérialiste même hein, à Toulouse. J'avais réussi en tant que coach, d'exécutif coach. J'avais acheté ma maison, je l'avais rénovée en bonne soit forte. J'avais fait beaucoup de travaux, je m'y étais épuisée. Et une fois que j'ai eu fini, je me suis dit, qu'est-ce que tu fous là? Voilà. Et ça a été voilà, aussi avec différents problèmes de santé qui ont fait que j'ai ouvert les yeux en fait, sur mes besoins profonds, réels, sur ce que j'avais envie de vivre, ce que j'avais envie de permettre aussi à mon fils. Et du coup, j'ai décidé de m'autoriser à réaliser un rêve qui était de vivre au bord de la mer et donc de lâcher. Paradoxalement, réaliser un rêve, ça demande beaucoup de responsabilité, beaucoup de courage, mais aussi beaucoup de dépouillement, hein, c'est-à-dire de lâcher son ancienne. C'est comme une mue, hein, son
Du
ancienne.
mieux, ouais, c'est le
Voilà.
mot qui venait à.
Peau. Et ça fait aussi partie, c'est en ça que j'ai envie aussi d'accompagner. Le changement, c'est du deuil. Hein, et donc, comme tu l'as compris, ça a marqué ma vie plein, plein de niveaux. Pas que par rapport à mes parents. Et du coup, changer de peau, c'est aussi faire le deuil de la personne qu'on était avant. Et tout ça pour revenir à ce choix, voilà, à ce rêve de venir au bord de la mer, alors avec tout ce que je n'avais pas prévu de difficultés, et pour aussi me permettre de vivre au quotidien plus proche de l'eau. Hein. Donc c'est vrai que ouais, quand je tourne la tête aujourd'hui, j'ai la joie de voir la mer, de voir l'eau. Hein. C'est un élément qui, par nature, est l'élément le plus proche de l'émotionnel. Hein. Donc il y a quelque chose de très. Presque maternelle,
Mais je n'osais pas te le
hein,
dire. Bon, je voulais te laisser l'opportunité de faire le lien. Effectivement, quand je t'écoute, ça me fait beaucoup écho à la maman, le liquide amniotique,
Absolument, il y a
une
quelque
forme
chose
de.
de prénatal hein, qui se met en place. Et donc, l'apnée, hein, c'est une discipline que j'ai découvert également suite à la réalisation d'un rêve. Je rêvais d'aller à la rencontre des dauphins. Il y a quelques années maintenant, je crois que c'est 6 ans, je suis partie en mer Rouge. J'ai fait un stage d'apnée méditative hein, avec une apnéiste japonaise, Naina Sato, qui est aussi très inspirante dans ce qu'elle transmet. Et depuis ce jour, voilà, je suis tombée dedans. Voilà, donc j'étais déjà très aquatique. Le lien avec l'eau, avec les mammifères marins aussi, donc c'est encore autre chose, hein, mais les dauphins, notamment, sont des êtres, au-delà d'être des animaux, qui sont reconnus pour être des soignants, hein, et qui vont permettre une amélioration chez les grands dépressifs ou des personnes avec des troubles autistiques. Voilà, il y a eu un avant, un après dans ma vie avec ce voyage et cette rencontre avec les dauphins. Sur une semaine, hein, j'ai eu l'occasion de rentrer en contact, en communication vraiment concrètement avec eux et d'apprendre, hein, parce que c'est l'animal, en analyse transactionnelle, on appelle ça l'enfant libre, hein, c'est vraiment l'animal qui exprime la joie, qui exprime voilà, le plaisir, le jeu. Et donc, ça a dû réactiver quelque chose de précieux en moi.
Right.
Et j'ai décidé de me former à l'apnée. Donc, j'habitais encore à Toulouse à l'époque et je suis allée dans une fosse
Right.
voilà, qui est assez connue à Toulouse, pratiquer l'apnée.
Alors, quand tu dis une fosse, c'est, excuse-moi, je fais la
Alors, une
digression,
fosse, oui,
c'est
bien
le principe
sûr.
d'un. Enfin, c'est comme un puits, on va dire. Hein.
Absolument, c'est
C'est
comme
fait.
un puits qui fait 15 mètres de profondeur hein, et
C'est
donc dans
ça.
laquelle on va pouvoir pratiquer l'apnée,
Ouais.
pas statique où l'on bouge pas, soit en profondeur.
Ouais.
Et où j'ai eu la chance d'avoir un professeur, coucou Fabien, exceptionnel, qui m'a transmis le plaisir de l'apnée, le plaisir de l'eau. Là où on a la sensation souvent, hein, on a l'image du grand bleu, hein, l'apnée c'est le grand bleu, c'est la performance.
Ouais.
Et où il y a une autre dimension vraiment de l'apnée, où ça va être la connexion vraiment en pleine présence, d'abord et avant tout de sa respiration. Donc la respiration, c'est un outil précieux dans tous les métiers du monde auquel on peut faire appel pour regagner de la présence, hein, reconnecter à soi, mais aussi pour voilà, pour permettre d'autres prises de conscience. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais en tout cas, c'est une discipline intérieure hein, qui développe la proprioception et l'interoception, c'est-à-dire la capacité à représenter son corps dans l'environnement, mais aussi les mouvements internes du corps et les mouvements mentaux hein, aussi, parce qu'il y a plein de croyances, voilà, que est-ce que je vais tenir une
Ouais.
minute, deux, voilà, et
Que je vais
finalement,
remonter.
est-ce que je vais remonter?
Ouais.
Exactement. Hein, donc, il y a plein
Ouais.
d'émotions, plein de croyances qui
Ouais.
sont très intéressantes à vivre. Hein,
Ouais.
donc, je te le disais tout à l'heure, l'apnée, je considère ça comme une médiation, c'est-à-dire c'est avant tout expérientiel. Ça permet de vivre des moments qui ne peuvent pas être décrits par de la théorie ou par le verbe et qui, de ce fait, vont permettre, hein, avec un accompagnement derrière, une plus grande finesse dans la connaissance de soi, en fait, et aussi dans la capacité à gérer le stress, hein, puisque nous avons évidemment reconnu que savoir hein, travailler sa respiration est essentiel hein, pour un bon équilibre.
Moi, j'entends ça. Et en fait, dans ce que j'entends aussi, tu me dis si c'est OK pour toi, mais j'entends aussi le fait que quand on est bien connecté avec soi-même, on se connecte mieux avec les autres.
Oui, c'est essentiel. Hein. C'est vrai que les coachs et les accompagnants, de manière générale, hein, ont des fonctions RH, sont des personnes qui sont très tournées vers autrui, qui prennent soin de l'autre et qui peuvent s'oublier. Hein. Donc,
Ouais.
il y a un livre qui s'appelle Le guérisseur blessé ou Savoir apprivoiser son ombre, hein, de Bourguette, qui parle très bien de ça, de cette importance d'aller traiter, pétrir en soi, d'abord, avant de pouvoir le permettre chez l'autre. Et du coup, évidemment, hein, dans ce rôle modélisant, c'est-à-dire que de prendre soin de soi, et parce que le coaching est une qualité de présence de chaque instant, eh bien, c'est un exercice également nécessaire pour être en capacité de rebondir sur les non-dits, de travailler les questions puissantes et de permettre ce lien.
C'est un étayage, quoi. Finalement, ça permet d'avoir quelque chose qui peut être structurant, finalement.
Absolument,
Ouais.
ouais.
Ok. Alors, bon, j'en profite parce que tu as parlé des dauphins. Je sais que tu m'avais parlé des cachalots, que tu as vu aussi. Et ce qui m'avait interpellé quand on avait échangé avant de faire cet épisode, tu m'avais dit, bah, tu sais. Il y a chez ces mammifères une forme très développée d'intelligence émotionnelle et d'intelligence au niveau social, d'intelligence sociale. Je voudrais que tu nous partages ça parce que ça m'a vraiment. Enfin, alors, c'est vrai que les dauphins ont la réputation d'avoir un niveau d'intelligence assez poussé, un mode de communication aussi assez poussé, comme beaucoup de mammifères marins, effectivement. Pas que, hein, mais bon, là, on est dans la sphère marine. Mais j'aimerais bien que tu nous partages ça. Comment tu as ressenti ça, toi, sur le plan émotionnel et social? Comment tu as fait ce lien avec ces animaux?
Alors, ce que j'allais te dire, je vais te le partager d'un point de vue ressenti et vécu,
Ouais,
hein, parce que je ne
ouais.
suis pas scientifique. Et François Sarano, qui est un grand spécialiste de ça, en parlerait bien mieux que moi, et qui a beaucoup étudié les cachalots et notamment leur mode de communication. Donc, tout reste à découvrir, hein, de ce point de vue-là. J'ai beaucoup, beaucoup lu, beaucoup fait de recherches aussi à cet endroit-là. Et en effet, les mammifères marins ont une zone du cerveau bien plus développée que la nôtre, qui conserve l'intelligence émotionnelle. Et concernant l'intelligence sociale, ben, moi, j'ai pu observer, notamment chez les cachalots, hein, à l'île Maurice, lors d'un voyage qui nous permettait non seulement d'observer, mais de permettre des recherches scientifiques. Hein, donc, on est bien loin du tourisme de masse qui va envahir l'espace sacré et sauvage de l'animal.
Ah, je
Oui,
t'ai
tu t'en
bien. Ah,
prie.
ben, non, mais c'est parce que je suis d'origine mauricienne du côté de mon père, donc
D'accord.
ça fait écho avec ça. Ouais, je sais qu'il y a. Je suis conscient de ça. Il y a plusieurs volets à l'île Maurice, mais effectivement, je te laisse dérouler par rapport à ça. Ouais.
Oui, donc j'ai eu cette chance-là de les observer et de le vivre. Hein. Donc, c'est des images qui tournent pas mal, hein, parce que un grand apnéiste les a diffusées aussi. Hein, donc, ces animaux, les cachalots, alors à la différence des baleines, c'est les plus grands carnassiers du monde, ils ont une puissance incroyable. Et l'environnement de l'eau, également, reconnecte à la puissance du silence, hein, le parallèle qu'on peut faire en coaching. Hein, et ça nous amène à une forme de silence intérieur, d'observation. Hein. Moi, j'ai toujours considéré la nature comme un vecteur de conscience. Et du coup, ces animaux m'ont énormément touchée parce que, d'un simple fait, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment à 1 mètre, hein, de moi, rien qu'à la puissance de leur sonar, hein, et de leurs vocalisations qu'ils peuvent émettre, ils peuvent tuer un homme parce qu'ils peuvent faire exploser leur tympan. Et à côté de ça, ils vont arriver, hein, de manière très délicate au
Régulier,
contact,
voilà.
à l'observation. Hein, un écrivain qui s'appelle Christian Bobin, que j'aime beaucoup, qui dit que l'empathie, c'est cette plus grande proximité, cette distance sacrée. Et en ça, j'ai beaucoup appris d'eux. Et de la même manière, de ces animaux qui dorment à la verticale sous l'eau. Quand on voit, c'est comme des menhirs en fait, hein. Ils sont tellement énormes, hein. Il faut s'imaginer la taille d'un sous-marin. Ils sont 7, 8, 9, 10 comme ça, en train de dormir, donc c'est un très grand respect à ne pas les réveiller. On se sent tout petit, voilà. On se replace dans notre position d'humain. Je considère qu'on a beaucoup à apprendre du sauvage, en effet.
À se reconnecter justement avec tout cet univers. J'aime bien aussi l'idée du silence. Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, d'ailleurs d'une manière générale, on vit dans une société où il y a besoin ben, de bruit, où j'allais dire presque le fait de le silence, ou le fait de parfois alors de rien faire, j'aime pas dire ça comme ça, mais là, de se poser. Tu parlais d'être à nu parfois sans outils, mais là j'imagine, enfin, jouer avec les enfants. On est parents tous les deux, c'est vrai que parfois je leur retire téléphone, écran, etc. Et notamment quand on est à table, j'aime bien qu'on prenne le temps. Et je sens que parfois les silences, ça peut. Alors nous, on est dans le coaching, on est que le silence, c'est important de laisser les silences exister, tu vois. Et j'ai l'impression qu'on est toujours dans une société, alors je sais pas, je parle en France notamment, on a besoin d'être toujours dans cette émulsion, d'être dans quelque chose, ou comme si justement le silence dont tu parlais, et on imagine très bien quand t'es. Moi j'étais avec toi quand tu parlais des cachalots, même à la verticale, et on sent très bien qu'à un moment, ça peut nous faire peur aussi de se retrouver dans un univers où finalement il n'y a plus ce son, tu vois, il n'y a plus.
Bien
Tu vois,
sûr.
je parlais notamment avec quelqu'un qui me disait, moi, il y a des moments où je m'enregistre des bruits de ville, parce que parfois quand je vais à la campagne, il ne se passe rien, j'entends rien, et bien ça me fait peur. Donc pour m'endormir, il se re... Non mais, donc on voit
Oui,
bien.
c'est la peur du vide, hein, évidemment. On parle de bruit, mais on parle surtout de bruit intérieur. Hein, donc, comment est-ce qu'on va créer ces moments-là, à titre personnel, mais aussi à titre professionnel quand on est accompagnant, pour aller écouter à ce bruit intérieur, mais surtout aller écouter à le silence. Hein, et on sait, toi comme moi, que le silence en coaching est d'une puissance inouïe. Hein, c'est un vide qui est plein. C'est une présence du cœur. Hein. J'ai écrit récemment dans un article que le silence relie les cœurs et je le crois ça, avec certitude pour l'avoir pratiqué. Hein. Le silence est aussi puissant que le questionnement. On permet l'émergence de ce qui doit être à ce moment-là, que ce soit une émotion ou que ce soit une prise de conscience. Et oui, bien sûr, hein, on vit dans un mouvement perpétuel et je crois que l'enjeu. Aujourd'hui, le demain sera d'arriver à bien sûr se déconnecter et créer ces espaces de silence intérieur, de respiration consciente au sens propre comme figuré du terme, pour revenir à l'essentiel. Hein, j'aime bien cette phrase qui dit que l'enjeu, c'est pas de rester tellement vivant, mais de rester humain. Comment est-ce qu'on va avec tout ce qui se passe actuellement, eh bien, faire la différence avec l'intelligence artificielle et précisément aller ancrer ce qui fait qu'on est des humains.
Alors ça sera un autre volet
Un
parce
autre
que
sujet, ouais.
ouais, parce que c'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est un gros sujet aujourd'hui, hein. Il y a des
Ouais.
enjeux énormes. Et toi qui aimes bien rédiger, justement, moi je te suis sur LinkedIn et je mettrai tes coordonnées dans la description pour qu'on puisse te suivre. Si tu es OK, bah en fait on fera un petit peu le parallèle parce que pour l'instant, l'apnée que tu proposes, c'est pour des coachs, hein. Si tu es d'accord, on fera un suivi là-dessus parce que tu vas par la suite proposer ça à des
À
personnes qui
d'autres
sont.
publics, ouais. Ouais.
Donc, on
Tout à
aura
fait.
l'occasion d'en reparler. Est-ce que je te prends un peu de cours comme ça parce qu'on n'avait pas forcément parlé, mais je sais que tu lis beaucoup. Est-ce que tu as envie de nous proposer quelques livres, que ça soit pro ou perso?
Oui, alors figure-toi, je lis beaucoup moins qu'avant. Hein. J'ai un peu terminé ma période de boulimie de l'intellect. Hein, voilà. Pour vivre des choses concrètement. Mais oui, bien sûr, il y a différents livres. Hein. Il y a le livre d'Alain Cardon, hein, L'art véritable du maître coach, qui, au-delà de son titre un peu pompeux et il en convient lui aussi, et parle de l'essence de ce métier-là. Après, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, Le guérisseur blessé de Hugo Guette, La cinquième discipline pour les coachs qui veulent travailler dans les organisations. Il y a récemment un recueil qui s'appelle Pour un coaching sans outils, qui parle un petit peu de ce que j'ai évoqué tout à l'heure.
Bon, je te remercie mille fois, Anne-Sophie. C'était vraiment un plaisir. Je te remercie aussi pour l'ouverture que tu as faite, hein. Je sais que tu nous as parlé de certaines choses personnelles. Et bon, je te remercie beaucoup pour cet épisode. Je mettrai donc toutes tes coordonnées dans la description. Et puis, je te souhaite le meilleur, hein, pour ta nouvelle vie à La Ciotat. Et
Merci beaucoup.
puis, bon, on se tient au courant donc pour. Cette apnée qui va s'ouvrir sur notre public. J'invite vraiment tout le monde à te suivre là-dessus. C'est vraiment une super expérience. Moi, j'ai hâte.
Oui, et puis ça sera en co-animation avec un club et un grand apnéiste qui connaît très bien lui-même puisqu'il est psychologue. Donc oui, ça va s'ouvrir à d'autres publics. Ouais, d'autres...
Bon, bah, à bientôt,
Merci
Anne-Sophie.
pour ton
Merci à
invitation. Au
toi.
revoir, Marc.
À bientôt.